Vous êtes sur RTL. RTL Matin, édition spéciale. Yves Calvi.
7h43, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le Premier ministre Édouard Philippe.
Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour Alba.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez grandi politiquement dans les jupes de Jacques Chirac ? J'entends par là que non mais Alain Juppé, votre mentor, était le fils préféré. Et Antoine Ruffenac, l'ancien maire du Havre, chiracien parmi les chiraciens auxquels vous avez succédé. Est-ce qu'on peut dire ça ?
On peut dire, oui, on peut dire sans se tromper que comme tous les Français de mon âge, Jacques Chirac a été une forme de... un personnage qui était là et qui comptait, qui était dans la vie politique et qui était dans la vie française. Certains l'admiraient, l'aimaient, c'était mon cas. D'autres ne l'aimaient pas du tout, mais enfin, il était là.
Mais je rappelle, voilà, vous êtes né en 70, donc en fait, vous l'avez connu enfant, adolescent, jeune adulte.
Enfin, connu comme tout le monde, pas connu personnellement quand j'étais enfant ni adolescent, mais il était dans le paysage français et il comptait dans le paysage français. Et c'est vrai que comme il comptait beaucoup pour Antoine Ruffenac, qui était mon prédécesseur au Havre, et Alain Juppé, et que moi j'ai eu le plaisir et l'honneur de rentrer en politique et d'apprendre la politique avec Antoine Ruffenac et Alain Juppé, il comptait peut-être encore un peu plus pour moi. Donc oui, et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. On ressent le départ de quelqu'un qui, quel que soit le rapport qu'on a eu avec lui, certains ont eu un rapport intime avec lui, d'autres un rapport bien plus distant, mais on ressent le départ de quelqu'un qui a compté, qui a pesé dans la vie, une forme d'ombre tutélaire qui n'est plus là.
Et mais hier, vous dites, je suis ému et un peu nostalgique.
Oui,
c'est quoi cette nostalgie ?
Ému parce que j'ai été très ému quand j'ai appris la nouvelle hier, et un peu nostalgique parce que c'est une partie d'une France qui passe, et sans être un coutumier de la nostalgie et en sachant que c'est la nature des choses, que les gens passent, que la France continue, j'éprouve une certaine forme de nostalgie.
Votre première rencontre avec Jacques Chirac, c'était quand ? Vous aviez quel âge ? C'était où ?
J'avais 24 ans, c'était à New York. Il venait d'être élu président de la République et moi j'étais jeune stagiaire à la représentation permanente de la France à New York.
C'était le stage de l'ENA, c'est ça ?
C'est ça. Et comme j'étais le stagiaire, j'étais la dernière roue du carrosse hein, dans cette organisation.
Vous serviez les cafés, quoi, pardon.
Parfois, oui. Enfin, parfois un peu plus, mais parfois c'était ça. Bon, et puis c'était comme ça. Puis c'est comme ça qu'on apprend après tout. Hein, et donc, comme il avait son premier déplacement, s'était passé en Allemagne, comme c'est la coutume. Et puis ensuite, il partait à Halifax où il devait y avoir, je sais pas, un G7, un G8, je sais plus que. Et en passant par Halifax au Canada, et donc en passant, il avait décidé de venir à l'ONU à New York parce qu'il avait déjà annoncé la reprise des essais nucléaires, parce qu'il voulait... puis on était dans la guerre de Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Bon, bref, il passait et on m'avait demandé de participer à l'organisation du déplacement. Et moi, j'étais quand même un peu... D'abord, j'étais stagiaire, il ne fallait pas que je me plante. Et puis ensuite, c'était quand même le président de la République, puis c'était Jacques Chirac. Et je l'ai croisé au début, à la fin de sa visite, qui a duré quelques heures. Et au début, il a été très... Il avait cette capacité, en vous serrant la main, en vous regardant et au moment où vous présentiez, à vous faire sentir... Vous étiez là. Il était là pour vous et vous étiez là pour lui.
Vous vous êtes senti important.
J'ai senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Alors, rien de plus que ça, mais tout ça. Et puis à la fin, le déplacement s'était bien passé. Il a eu ces quelques mots qui sont à la fois pas grand-chose, mais qui comptent beaucoup quand on est un jeune homme qui aime la vie politique, qui aime la vie publique, et qui a le président de la République en face de soi, qui étaient des mots d'encouragement, qui étaient des mots très bienveillants. Et il faisait ça très bien.
Et ça vous a rendu fier ?
Oui, sans doute, oui, sans doute.
Vous retenez quoi de Jacques Chirac ? Plutôt le bon vivant, amateur de tête de veau, la marionnette des Guignols, je sais que ça vous a beaucoup marqué, ou l'homme cultivé, curieux, passionné d'histoire ?
J'essaie de retenir tout, et dans Jacques Chirac, il y a tout. Des côtés absolument remarquables, sympathiques, truculents, chaleureux, visionnaires, exigeants, et puis des côtés plus compliqués, plus sombres. Parce que je crois vraiment ça, Jacques Chirac, c'était un Français au plein sens du terme, avec ses aspirations, ses contradictions, ses ambitions, ses moments de, peut-être à certains égards, de génie, en tout cas de génie national. Et puis aussi des phases plus compliquées, des hésitations, parfois des renoncements,
des contradictions. On va en reparler. Je vous ai lu, vous avez dit, j'ai une tendresse particulière pour Jacques Chirac, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est plus méchant et plus cultivé que l'image qu'il a voulu donner.
Oui, mais je crois que tous les gens s'accordent à le dire.
C'est-à-dire un homme raffiné, mais aussi sans pitié.
Il a traversé la vie politique française pendant longtemps et en occupant les postes et en atteignant les postes les plus exigeants. Ça dit quelque chose, à la fois de son ambition et de sa force et de son énergie, que chacun constate et que tout le monde célèbre aujourd'hui. Ça dit aussi quelque chose de sa dureté, d'une certaine façon, et de sa capacité à faire des choix, à écarter, à surmonter des difficultés. Et c'est aussi ça, Jacques Chirac. Un homme à la résilience incroyable qui agonie d'injures, cerné de toutes parts, tracé son chemin, et parfois vivement et parfois rudement. Je trouve que, au fond, lui rendre hommage, comme nous le faisons aujourd'hui, à juste titre, c'est aussi décrire l'homme dans toute sa complexité, dans ses contradictions, car il y en avait.
Mais voilà, comme vous le dites, avec ses bons et ses mauvais côtés, Nicolas Sarkozy l'avait qualifié de roi fainéant. Vous diriez que Jacques Chirac, c'est l'homme des réformes avortées, parce que, pardon, monsieur le Premier ministre, la réforme de la Sécu, il a calé. Des retraites, qui non seulement a fait tomber Alain Juppé, vous a été quand même légué aujourd'hui. On en parle aujourd'hui, c'est l'actualité d'aujourd'hui. C'est aussi l'homme des réformes avortées?
Non, je dirais pas que c'est l'homme des réformes avortées. D'abord, un certain nombre de réformes ont eu lieu. Vous voyez, par exemple, je trouve que je suis très surpris que depuis hier, on parle très peu de la réforme du service national. Il a pris la décision de supprimer le service national, pas pour le supprimer.
Si on en a parlé, oui. Courageux, sans doute.
Pourquoi pas pour supprimer le service national en tant que tel? Pour adapter l'armée de 1995 au siècle qui venait et aux usages dont il pensait qu'on aurait affaire de l'armée aujourd'hui.
Il y a eu les morts sur les routes aussi,
Réussi ça. Non mais je voudrais le dire parce que parfois on présente Jacques Chirac comme vous venez de le faire, l'homme des réformes avortées ou celui qui aurait renoncé face à la
difficulté. Mais parce que c'est aussi Jacques Chirac
et aujourd'hui était visionnaire en la matière.
Aujourd'hui, pardon, mais vous êtes plus au courant que nous. Je pensais Jacques Chirac sur la réforme des retraites, c'est ce que vous êtes en train de traiter aujourd'hui, permettez-moi d'insister. C'est une réforme qui n'a pas été faite.
Il est comme tous les responsables politiques, il ne peut pas dire et il ne pouvait pas dire au terme de l'exercice de ses mandats qu'il avait tout fait.
Mais vous diriez qu'il a manqué de courage par moment.
Vous voulez que je vous dise, c'est pas le seul. Ça arrivera à d'autres et ça m'arrivera à moi. On ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui sont des réussites. Il y a des choses qui sont des réussites qu'on oublie. Et puis il y a des choses qui n'ont pas été faites, c'est vrai.
Jacques Chirac avait pour habitude de dire, pour justifier sa prudence en matière de fiscalité, dans chaque niche, il y a un chien qui aboie. Oui. Niche fiscale, vous êtes bien payé pour le savoir d'ailleurs.
Oui,
je pense à l'exonération des aides à domicile pour les plus de 70
formule,
ans.
La formule dit quelque chose de très juste.
Volontarisme et prudence, en fait, c'était ça, Jacques Chirac.
Volontarisme sans doute, sans aucun doute. Prudence parce que je crois qu'il savait, qu'il mesurait que notre vieille nation était à la fois parfois capable de s'unir dans le meilleur, mais toujours traversée par des forces qui la divisent et qui l'emmènent vers la chicaïa ou vers la division, ou vers la controverse. Alors je crois pas qu'il avait peur de la controverse, pas du tout, mais je pense qu'il savait, comme d'ailleurs le savent les présidents que la France est un pays qui doit toujours revenir à la question de son unité.
Monsieur le Premier ministre, un hommage sera rendu lundi en l'église Saint-Sulpice, donc jour de deuil national. Est-ce que le président va prendre la parole ce jour-là, à ce moment-là?
Je ne sais pas s'il va prendre... Je sais que la cérémonie aura lieu à Saint-Sulpice, mais je ne sais pas qui prendra la parole.
Est-ce qu'il y aura un hommage national aux Invalides?
Les modalités de la journée de lundi et de ce qui précédera sont en train d'être déterminées, je crois, en bonne intelligence entre la famille du président Chirac et la présidence de la République. On pourra communiquer, je pense, dans la journée sur un certain nombre de...
Sur des funérailles nationales, par exemple?
Sur la cérémonie d'hommage qui aura lieu lundi à Saint-Sulpice. Oui. Et sur la façon dont on accompagnera et les Français pourront accompagner cette cérémonie.
Jacques Chirac, quand il était Premier ministre, quand il était à Matignon, il avait planté un pommier dans le jardin.
C'est moi qui ai planté un pommier.
C'est vous le premier ?
Oui. Et vous, la tradition...
En hommage aux pommes de Jacques Chirac.
Notamment. La tradition veut que les premiers ministres plantent des arbres dans le parc de Matignon. Et chacun plante un arbre et chacun choisit l'endroit où il le plante. Et moi, j'ai choisi de planter un pommier pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un arbre normand et que j'aime la Normandie. Et aussi parce qu'au moment où je l'ai planté, on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je plantais ce pommier, j'ai indiqué qu'il fallait toujours manger des pommes. Reprenant la formule célèbre de sa campagne de 95.
Il existe toujours ce pommier ?
Mais évidemment, et il donne des pommes. Et croyez-moi, la prochaine fois que j'en mangerai une, je penserai à Jacques Chirac.
J'ai deux petites questions. Vous êtes d'accord avec cette autre phrase de Jacques Chirac qui disait « Les merdes, ça vole toujours en escadrille »
C'est
ce que vous dites tous les jours en entrant à Matignon ?
Il savait de quoi il parlait. Et l'observation est assez juste.
Une note plus gaie, Édouard Philippe, j'ai entendu dire que vous appréciez la Corona, la bière. Est-ce que c'est le président Jacques Chirac qui vous avait initié ?
Non, il ne m'avait pas initié, mais je constate à posteriori que nous avons cette passion commune.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
Merci beaucoup.
Nous vous avons proposé deux témoignages tout à fait exceptionnels, intimes et finalement très naturels ce matin, avec Édouard Philippe et Valérie Pécresse. En fait, Jacques Chirac est vivant sur l'antenne d'RTL. Cette édition spéciale se poursuit dans quelques instants avec Cyprien Sini.